Bien sûr, il faut se méfier des sondages, mais il faut surtout se méfier des sondeurs. À l'Humanité, on avait posé la question, êtes-vous en accord avec, soutenez-vous les grévistes? Et les régents ont répondu 54% oui. Au Figaro, on a posé une autre question, êtes-vous d'accord avec la grève? Et là, et bien sûr, les résultats ont été inverses, la question a été posée différemment. Voilà, Marie-Paul de Villejuif, au revoir.
Oui, allô Daniel, ben, je suis vraiment écœurée. On parlait misère et pauvreté ce matin sur France Inter. Ah oui, beau sujet. Martin Hirsch était l'invité et j'ai bien l'impression que Martin Hirsch... Mais voilà, il a quitté son jean d'Emmaüs et puis il a renfilé son veston de Léna. Alors cette femme dans la rue qui a téléphoné, ouais, sa place n'est pas dans la rue. Oui, belle parole. Et oui, mais il ne suffit pas de le dire et puis d'envoyer les forces de l'ordre. Le SMIC n'est pas revalorisé. La solution n'est pas dans l'augmentation du SMIC, mais dans le coût de la vie. Oui, il fallait y penser. Et on ne parle pas de la TVA sociale, ça, surtout pas. Le plus beau cadeau que l'on puisse faire au peuple est de l'éduquer, de lui apprendre à vivre avec 450 euros par mois. Pas de réaction. Heureusement qu'un TD Carmonde était là pour s'insurger. Et puis l'éternelle grande vérité, répétée, ressassée, les pauvres, les chômeurs n'ont pas de formation. Ouais, j'ai un bac plus 4, une maîtrise en technologie de communication, une carte de presse pour avoir travaillé 12 ans comme journaliste de presse locale, 3 ans de chômage. Depuis 6 mois, j'étais en CAE, j'assurais la programmation artistique d'un site historique. Le contrat n'est pas renouvelé, ordre de Sarko. Et si je ne m'étais pas renseignée, je n'aurais même pas su que je devais me réinscrire à l'ANPE à la fin de ces 6 mois. Moi qui étais restée inscrite à l'ANPE. Avec une pièce d'identité en cours de validité, s'il vous plaît. Voilà comment on joue sous les chiffres. On éradique le chômage en le créant, curieux, non? Mais trop de pauvreté ne tue pas la pauvreté, bien au contraire. Enfin, je vais finir sur une note positive. Nos dirigeants qui se disent chrétiens, ils le sont cette fois. La Bible ne dit-elle pas qu'à ceux qui ont, ils seront donnés encore, et à ceux qui n'ont rien, il sera retiré même ce qu'ils n'ont pas? Gagner plus pour retirer plus, c'est l'évangile selon Sarko. C'était Régine dans les Pyrénées.
Monsieur Sarkozy, il faudrait venir enlever des frontons des mairies de France et des écoles le mot fraternité qui est écrit dessus, voilà. Comme ça, ça fera des emplois de venir effacer tout ça, parce que je pense que, eh ben, depuis l'amendement sur les ADN, c'est plus la peine de laisser ça marqué. Voilà, faut les enlever. Il n'y a plus de fraternité. Allez, salut.
Une journée contre la pauvreté. Une journée contre la pauvreté. Pas plus. Une journée seulement. Écoutez donc ce que George Orwell a écrit.
Il ne s'agit pas de savoir si la guerre est réelle ou non. La victoire n'est pas possible. Il ne s'agit pas de gagner la guerre, mais de la prolonger indéfiniment. Une société hiérarchisée n'est possible que si elle repose sur la pauvreté et sur l'ignorance. Leur version devient une vérité historique, et rien d'autre ne peut avoir existé. Par principe, le but de la guerre est de maintenir la société au bord de la famine. La guerre est menée par l'élite contre ses propres sujets. Son objectif n'est pas de vaincre en Eurasie ou en Asie, mais de garder la structure sociale intacte.
Voilà, c'était Raymond de l'Île-de-Groix. Merci. Salut à tous.
Ouais, je crois que je vais arrêter de manger en même temps que j'écoute les infos. Là, j'ai failli m'étrangler avec ma poire. Attali, vous savez ce qu'il dit, c'est que les OGM, il faut en donner au peuple qui ne savent ni lire ni écrire. Mais attendez, mais c'est réel ce que je viens d'entendre, c'est bien ce qu'il a dit sur France Inter. C'est parce que les peuples du monde ne savent pas lire et écrire qu'il faut leur balancer des OGM. Mais les OGM, on n'en veut pas. Merde !
Bonjour, c'est Liliane dans le Val-de-Marne. Je voulais dire aux gens du lycée Maurice Ravel de Paris, ben, que je les félicitais parce qu'ils ont entièrement raison. Bon, moi, ça m'obsède, ces choses-là, d'autant que j'ai un mari qui a travaillé dans la sécurité. Donc, voilà. Et puis ensuite, il y a également des années, mon fils, par rapport à la sécurité sociale, le pédiatre n'a pas rempli tout un tas de renseignements alors qu'il avait à peu près 6 mois, en me disant que peut-être plus tard ça pouvait être utilisé par autre chose. C'est d'ailleurs cette première personne qui m'a interpellée. Et plein de choses comme ça. Ensuite, au niveau des banques, il y a déjà de nombreuses années que toutes les cartes bancaires sont complètement ventilées par tout ce que vous pouvez acheter. Donc on sait que telle personne, bien sûr, c'est fait dans le but de marketing, mais si on extrapole, et comme on va de plus en plus vers effectivement le bouquin de George Orwell, etc., etc., et ben moi, effectivement, ça me fait peur. Quant aux caméras, j'entends parler de ça chez moi depuis de nombreuses années, et si les gens, ils n'ont pas encore compris ça, et je pense qu'ils n'ont pas encore compris, parce que quand j'en parle depuis longtemps, bah oui, c'est normal. Même la carte vitale, même plein de choses comme ça. D'ailleurs, je précise, je ne me sers pas de ma carte vitale, surtout pour aller acheter des petits trucs de rien du tout. Voilà, on est effectivement cerné et je ne suis pas parano, je le précise. Au revoir, bon courage et merci pour vos émissions que malheureusement, je peux pas écouter tout le temps. Faut que je travaille. Au revoir.
Bonjour Daniel. Je suis encore une fois consterné par l'incivisme de certains de nos compatriotes. Qui sont-ils pour prendre en otage la population ? Sont-ils suffisamment naïfs pour penser nous rallier à leur cause ? En ce jour, veille d'une crise nationale, une prise d'otage légale, je penserai plutôt à ces artisans qui donnent leur vie à leur travail et qui, pour la plupart, ne bénéficieront pas de leur maigre retraite. Certes dure, cette réforme est toutefois nécessaire. La refuser reflète l'égoïsme des personnes. Prendre en otage la population nous montre à quel point la démocratie est en péril. Avoir la liberté d'aller travailler n'est-il pas la première des libertés ? Merci pour ton émission. À bientôt.
Ouais. Bonjour Daniel, bonjour à toi et à ton équipe. Voilà, ben, j'appelle pour dire qu'il y a le contrat qui n'a pas été respecté par notre ami Sarkozy. Je veux dire, il avait dit vous travaillerez plus pour gagner plus, mais moi en tant que cheminot, ben voilà quoi. C'était pas le contrat qu'il y avait de prévu. Donc ce soir on va prendre la France en otage, enfin à ce qui paraît. On verra bien ce que ça donnera, enfin. Merci pour tout ce que vous faites, parce que vous êtes quand même extraordinaire. Et puis, bonne continuation. Salut.
Voilà, amis preneurs d'otages et bientôt pris en otage. Bonjour, chers AMG, auditeurs modestes et géniaux. Bonjour et merci pour les messages que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassigi Suite, dont vous venez d'entendre un petit échantillon. Et on va avoir à nouveau quelques messages. Je voudrais dire deux choses. La première, c'est la journée contre la pauvreté aujourd'hui, mais... ça occulte une autre journée importante, 17 octobre 1961, les massacres à Paris, dans notre bonne ville de Paris, et la journée portée disparue. On va célébrer ce moment aujourd'hui même sur le pont Saint-Michel à 18h30. On y sera et pas seul, bien évidemment, tous ceux qui sont attachés à cette page très noire, toujours pas reconnue officiellement, de notre histoire nationale, 17 octobre 1961. Autre chose, on continue la balade dans la sécurité. Il faut de la sécurité en toute sécurité, c'est le grand mot. Et on continue la balade avec Sylvain Savolainen. Alors, hier, on s'est beaucoup intéressé à la vidéosurveillance. Aujourd'hui, d'autres aspects qui font que nous sommes tous en sécurité et que Big Brother nous regarde. Et cette émission est placée sur le conseil, sur une observation que me faisait ma maman. Dieu te regarde même quand tu es au cabinet.
Bonjour, salut, c'est Daniel. C'est Daniel, l'avocate de Saumur. C'est pour te tenir informé du devenir de notre tribunal de Saumur qui risque de disparaître. Le jeudi 18 octobre et vendredi 19 octobre, les avocats de Saumur organisent une marche protestative jusqu'à Angers. On part à pied, on va faire 50 km. Si tu veux te joindre à nous, ce serait sympa. D'autant que le bord de Loire est splendide à voir en cette saison. Je te dis à bientôt, au revoir.
Oui, bonjour, c'est Madouk en Seine-Maritime. Bon, je viens d'écouter ton émission parce que je suis en congé maladie, donc j'ai une voix un peu rauque, mais ça m'a permis d'être là à 15h et donc d'entendre en direct au lieu d'aller sur le site internet. Et donc l'actualité sur les bornes métriques, et ben ici à Rouen et puis je crois dans l'agglo, c'est dès la crèche et l'école maternelle et l'école primaire. des bornes qui sont pas encore biométriques, mais c'est encore pire puisque ce sont des cartes monétiques. Les bornes sont à hauteur d'enfants et donc tous les matins, les enfants font la queue allègrement pour pointer. Ils se trompent, bien entendu, entre la cantine, la garderie. Et donc, il y a aussi ce double contrôle, donc des personnels de la mairie qui sont dans les écoles, normalement en soutien scolaire, mais là, font un travail de contrôle supplémentaire pour corriger toutes les erreurs des bornes. Ces bornes représentent le tiers du budget informatique et mobilier des écoles primaires et maternelles de la ville. Et les PC, ordinateurs à l'usage des enfants ne fonctionnent pas et il n'y a personne pour les faire fonctionner. Au revoir.
Salut Daniel, salut les AMG. Moi, ce que je voulais aujourd'hui, c'est saluer le courage de nos députés et de nos sénateurs qui, malgré le fait que, bon, ayant un régime privilégié de retraite, eh ben, eux aussi vont être alignés sur le régime général, eh ben, eux, au moins, ils ne prennent en otage personne, hein. Non, eux, ils font pas grève, ils ne manifestent pas, et pourtant, ils sont sur la liste des régimes spéciaux. Donc là, franchement, chapeau. C'est un grand exemple de dignité de la part de ces gens-là. Honnêtement, ils vont pas embêter ceux qui travaillent. Hein. Donc franchement, intense admiration. Hein. Voilà. Et puis ben, courage aux collègues de la SNCF, la RATP et tout ça, de l'EDF. Il va falloir s'accrocher pour que vous obteniez quelque chose, les gars. Hein. Là, j'y sens mal barré. Voilà, c'était Jean-Christophe, chauffeur routier dans la Loire. Ciao.
Bonjour à toute l'équipe de là-bas si j'y suis. Ici, c'est le repère d'Aix-en-Provence. Nous organisons avec les amis du Diplo une conférence débat à Sciences Po Aix, où interviendra Hervé Kempf sur le thème « Comment les riches détruisent la planète ». Donc la conférence aura lieu ce vendredi 19 octobre à 18h30, très précise, à Sciences Po Aix. Et le lendemain, samedi 20 octobre, le repère d'Aix et le tout nouveau repère de Marseille donc organiseront la même conférence, toujours avec Hervé Kempf, au point de bascule qui est situé 108 rue de Breteuil à Marseille. Et là, la conférence démarrera à 18h très précise. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler le 06 03 15 02 74. Bonne journée à tous.
Pour des raisons de sécurité, votre appel est enregistré.
It's time to get up. The time is 7 o'clock.
J'arrive dans le métro. Devant moi, première chose, une caméra. C'est la journée qui commence.
Vous êtes à nouveau dans le système principal.
J'arrive au portillon, je sors mon pass Navigo, la RATP, et tous mes voyages sont enregistrés et tracés.
Souriez, vous êtes filmé. Michel Agnomari annonce que le nombre de caméras de vidéosurveillance installées en France va tripler d'ici la fin de l'année 2009.
Je continue ma journée, j'amène des enfants d'amis à l'école.
Là, on arrive, qu'est-ce que c'est, cet appareil?
C'est pour réserver mon repas.
Tu dois réserver ton repas. Alors, c'est une grosse machine, assez électronique, et puis il y a un petit carré argenté, qu'est-ce que c'est ça?
Bah en fait on doit poser notre doigt puis notre empreinte elle est inscrite là-dedans puis c'est comme ça qu'on réserve notre repas.
C'est un fantastique outil pour les dictateurs. Alors nous ne sommes pas actuellement en dictature mais un accident est toujours possible.
Salut, c'est là-bas si j'y suis, Daniel Mermet avec Sylvain Savolainen. Dieu te regarde même quand tu es au cabinet.
Flight number 2, arriving from New York.
Je continue ma journée, je décide de promener mon chien et d'aller faire un tour à la montagne. Je passe la frontière suisse et je suis arrêté par un douanier qui veut savoir si mon chien est porteur de puce. C'est obligatoire depuis 2007.
Oui, bonjour monsieur. Vos papiers, s'il vous plaît.
Voilà.
Merci. Vous étiez en France?
Oui.
D'accord. Vous avez fait des charges, ça?
Non, rien acheté.
D'accord. Mais vous avez un chien?
Oui.
Un gros chien.
C'est, oui.
Vous avez son passeport?
Voilà.
Voilà, merci. Passeport pour animal de corps, page 2. Description de l'animal. Laika.
Laika.
Né 1993, d'accord. Il a le puce?
Ben, j'espère que mon chien n'a pas de puce, non.
Non, mais le puce, micro-puce, le microchip, sa puce électronique, c'est pas animal.
Alors ça, oui, il a.
D'accord, mais écoutez, alors sortez le chien et on regarde, s'il vous plaît. Alors ça, c'est, encore une fois, tu t'appelles comment? On va trouver ça. Alors, Laika. Écoute, Laika, on va vite regarder. On allume.
Appareil rectangulaire, plastique. Il y a une empreinte digitale sur un chien et sur un chat. On appuie, c'est ça?
Oui, et ça s'appelle Isomax 3.
Et puis, un petit écran LCD d'ordinateur. C'est en anglais, hein? Ready.
Oui, oui. Nous, Lituaniens Suisses, on est très polyglottes. Et après... Alors, j'ai allumé. Pressez là sur l'empreinte.
Hop là.
Voilà, ready. Vous tournez là.
OK, on passe sur le cou.
Alors, nous verrons.
Vous passez à la hauteur de la tête, du cou.
On va tenter. Ah bon, ça enlève. Je re-éteins. Ready. Ah voilà. Maintenant, on a le numéro... Alors, t'es gentil, Laika. Alors, le numéro, c'est 75 60 98 10 10 12 941. Sachou, c'est le chien avec le passeport pour les chiens. Alors, pour moi, c'est bon. Vous pouvez aller.
Super, super. Donc, ce que je comprends bien, il faut dorénavant que les chiens et les chats aient des puces. Puces, micro-puces.
C'est juste. Ah, chaque chien, il doit avoir ce passeport pour animaux de compagnie. Pour être sûr que ce passeport corresponde avec l'animal, je ne sais pas qui, mais un vétérinaire, normalement, il a implanté ce micropuce électronique dans le corps du chien. Et l'État suisse m'a donné cet appareil qui me permet de lire le numéro qui figure aussi dans le passeport du chien. Et après, on est sûr, on parle du même chien.
Et quelle est la raison, le besoin pour la puce? Parce que le chien a déjà son carnet de vaccination, il a son tatouage, il a son passeport. Pourquoi maintenant la puce supplémentaire comme obligation?
C'est le moyen le plus fiable pour l'identification absolue.
Et entre le passeport, le carnet de vaccination, le tatouage, avant, la sécurité n'était pas suffisante ou assurée ou
Je ne peux pas le dire avec certitude. Je suppose par le fait qu'il y a maintenant ces puces, le tatouage n'était pas suffisant ou avec cette nouvelle technique, c'est plus fiable et plus rapide. Parce que vous avez vu, avec mon appareil, on peut lire rapidement le numéro. C'est efficace et c'est propre.
Et donc, on peut dire, enfin, si je comprends bien, que si le chien n'a pas de puce, ce qui semblerait logique pour un chien, ou qu'il a perdu son pucelage, il est hors la loi.
Juste, à ce moment-là, soit je le refoule, j'ai aussi la possibilité de contacter mon vétérinaire, ou je pourrais être gentil, je vous laisse partir, mais je fais des photocopies de votre passeport, votre adresse, et après, vous êtes contacté par le vétérinaire pour régulariser... Le cas. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais vécu ça. Jusqu'à maintenant, les histoires terminées, toujours bien.
Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui refusent d'inoculer une puce à leur animal?
Non, jusqu'à maintenant pas, parce que les gens, ils voyagent. Et probablement, c'est aussi dans l'intérêt du chien d'être identifiable. Et il y a aussi l'Union européenne qui exige certaines choses. Et celui qui voyage, malheureusement, il doit s'adapter à la loi du pays de destination. Et jusqu'à maintenant, j'ai fait uniquement des bonnes expériences. Les voyageurs avec chien ou chat sont en principe des gens bien éduqués et ils font tout pour contenter le pays de départ, ça veut dire la Suisse, et le pays de destination.
Vous avez souri, mais si, 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 mais si, on vous observe.
Vous croyez que vous êtes tranquille dans votre voiture, à écouter France Inter, chez vous, avec votre petit transistor et tout. Ça fait de bien belles lurettes que tout ça est équipé de caméras. On vous voit, mais bien sûr en permanence. Alors, c'est vrai que dans les messages reçus dans la boîte vocale de la base, si j'y suis, il y a un peu de parano. « Ouais, ouais, ça y est, on est tous fliqués. » Et c'est pas entièrement vrai, mais c'est pas entièrement faux. Et on nous sommes soupçonnés. Ce développement formidable quand même, actuellement, du contrôle par, grâce à l'informatique, grâce à l'électronique, évidemment, ça entraîne une situation de soupçon. Nous sommes tous soupçonné. Et bien sûr, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à craindre, comme on vous dit toujours. Mais c'est cette situation, ce climat de soupçon qui gagne un peu plus tous les jours. Il y a une dépêche qui nous est arrivée, un lycée de Nîmes, dans notre beau pays, à Nîmes, a mis en place lundi un système de code-barre attribué à chaque élève pour lutter contre l'absentéisme. C'est-à-dire que chaque élève est équipé d'un code-barre qui va permettre à la direction. Vous voyez, ça va quand même de plus en plus vite. Et évidemment que c'est les chiens et les chats aujourd'hui, mais pourquoi pas demain votre épouse, hein? Vous mettez une puce sur votre épouse et vous savez où elle est, vous pouvez la surveiller, vous avez un écran, etc. Ou bien lycée de Versailles. Vous avez compris ce que je veux dire. Depuis tout temps, le pouvoir a eu besoin de nous surveiller. Pour dominer, il faut contrôler, et pour contrôler, il faut surveiller. C'est tout simple, et ça s'est toujours fait. Les systèmes de délation dans les pays totalitaires, souvenez-vous, les rapports de la Stasi, par exemple, qui montraient comment la délation était généralisée dans un pays comme l'Allemagne de l'Est, mais c'était le cas en Russie. C'était le cas dans notre bel hexagone pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc. Mais que fait-on quand on est dans des sociétés ouvertes, libres, démocratiques, comme les nôtres? Il faut trouver des méthodes, des techniques adaptées à cette surveillance, et surtout que peu à peu les citoyens acceptent cette surveillance. C'est le souriez, vous êtes filmé. C'est toujours pour votre bien évidemment, qu'on fait tout ça. Que croyez-vous? C'est pour votre bien, c'est pour vous protéger, pour retrouver les petits-enfants perdus. Vous vous rendez compte, cette petite fille que toute la France a cherchée, si elle avait eu une puce? Non, on l'aurait retrouvée tout de suite. Donc voilà, c'est pour ça que c'est fait, c'est pas du tout. Et tout ce qui va permettre la domination, tout ce qui va perpétuer la domination est toujours fait pour notre bien d'abord. C'est avec cet esprit et cet état d'esprit que nous continuons cette balade dans le cauchemar de l'insécurité. Mais n'oubliez pas, si vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à craindre.
Vous êtes à nouveau dans le système principal.
Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays où seuls de vieux, de très vieux singes sont assis aux commandes de nos libertés, aux manettes de nos intégrités. Alors tapons-nous sur le nez, ça les fait toujours rigoler. Allez oui, tapons-nous entre nous, ça leur fera toujours de gros sous quand ils nous vendront des canifs et des idées malsaines pour que nos petites vies s'enfouissent dans la violence et la haine. Alors quoi? On va coucher dehors, sous des ponts d'or, que de trop reconstruits pour aller de leur cuisine. Alors living room, c'est pas du temps, c'est le living room des vieux sages savants, c'est le living room. C'est pas du temps, c'est le living room. C'est pas du temps, c'est le living room. Des éléphants, des gnous, des girafes, des orangs-outans dans nos réserves sous surveillance, et qu'on n'aille pas s'égarer en troupeau ou bien tout seul isolé dans les réserves d'à côté. On est sûr de tomber sur un ostéopathe de première qui vous démembrera, c'est son affaire, de vous faire passer l'ennui des voyages interdits, interdits dans nos vieux pays où seuls de vieux, de très vieux singes sont assis dans leur cuisine
qu'ils gambergent pour améliorer le living, living room. C'est pas le temps, c'est pas le temps, c'est le living room. Des vieux sages savants, c'est le living, 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 living room. C'est pas le temps, c'est le living, living, living.
Bonjour. Bonjour. J'aimerais acheter un petit objet. Est-ce que je peux voir ce que vous avez en rayon ?
Mais bien sûr, monsieur.
Qu'est-ce que c'est, ça ?
Un sextoys. C'est un objet avec qui marche avec une pile. Et celui-ci, il a des petits piquants comme ça, mais très très doux, qui font juste des sensations dans le vagin. Et c'est très agréable.
Et...
peu gros, vous avez des plus petits, vous avez des recourbés qui vont chercher le point G, voilà, et puis vous avez des coquerines, les coquerines vibrants ou les coquerines comme ça qui servent juste la base du sexe ou le sexe et les testicules.
Alors ça,
ça
c'est...
retient un petit peu l'érection et puis ça vibre sur le clitoris et c'est très agréable.
Par contre, il y a des piles.
Oui, il y a des piles.
Je préférais quelque chose de mécanique.
Alors, mécanique, ça, ce sont des cravaches ou des fouets en cuir.
Bon, bah, pour un premier achat, je vais faire tout simple. Je vais prendre ça.
Vous payez comment, monsieur ?
Par carte.
Bon, on n'a pas résisté, on vous en a mis une petite ressucée. C'était Sylvain. Dans le magasin, mais un culpa, c'était hier. Voilà, et tout, vous avez entendu, je ne sais ce que vous avez entendu, mais le mot important là-dedans, c'était carte bleue, bien évidemment. C'était carte bleue qui était très important, puisque hier, on a démontré qu'une fois cet achat fait, avec une carte bleue, eh bien, la marque, mais un culpa Sex Shop, était indélébile à vie. C'est-à-dire que, voilà, maintenant, Sylvain, on sait où il a acheté, ce qu'il a fait dans sa vie, c'est-à-dire que ses descendants, dans plusieurs siècles, sauront qu'il y a eu un ancêtre qui a acheté une cravache ce jour-là chez Mea Culpa. C'est quand même pas rien, c'est quand même pas rien. Quelle tête ils feront le jour où ils s'apercevront de ça, les descendants de Sylvain. Mais qu'en pensent les employés du sex shop Mea Culpa ? Qu'en pense, par exemple, le patron de tout ça, de cette surveillance informatique qui se généralise ?
Je vois que vous avez un chien.
Oui.
Est-ce qu'il a une puce ?
Mon chien a une puce, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je pense que on devrait y penser pour nos chers chérubins.
Comment ?
Les chérubins, les petits, les enfants. Parce que ça serait une protection et ça serait, à mon avis, une idée que les gouvernements devraient penser pour les enfants qui naissent jusqu'à un certain âge à définir probablement dans chaque pays, mais ça serait une garantie pour moi, une garantie un peu plus sûre de savoir où sont leurs enfants. Parce que déjà, on leur donne des téléphones, on leur donne des bracelets qu'on met au bras, il me semble. Si on leur mettait une puce directement à la naissance, eh bien, il y aurait, à mon avis, plus de facilité de retrouver des enfants. Pourquoi on le met pour les chiens ou pour les chats ? Étant donné que si on nous vole notre chien, quel que soit le prix du chien d'ailleurs, on s'en fout. Mais pourquoi pas le faire pour nos enfants, qui est quand même notre héritage futur. Donc ça serait peut-être une idée à suivre et surtout à imaginer.
Ben oui, il y a toujours la bonne raison, le bon prétexte pour notre bien, bien évidemment. La surveillance, le business de la peur se développe par vagues à chaque fois qu'il y a un grand traumatisme comme les attentats de 1995 à Paris, oui, bien évidemment 2001. 2001, le 11 septembre 2001 a déchaîné le marché de la sécurité dans le monde entier, enfin surtout dans le nôtre, dans le monde riche, et avec une destruction des libertés acquis. Sécurité et liberté, c'est un conflit. Et je rappelle la phrase attribuée à Thomas Jefferson, qui disait « Si vous êtes prêt à sacrifier un peu de liberté pour vous sentir en sécurité, vous ne méritez ni l'un ni l'autre ». Évidemment, le 11 septembre a été une aubaine, a constitué une aubaine pour à la fois pour ce marché, pour ce business et pour cette tendance lourde, très très lourde, des dominants, de la domination, que de contrôler la société intimement, dans son intimité. Je me souviens par exemple qu'au temps de Mobutu, au Zaïre, qui était le Zaïre à Kinshasa, la façon dont que Mobutu avait de contrôler sa population et la contestation et son opposition, c'était les escadrons de la mort, c'est-à-dire qu'ils faisaient exécuter quelques personnes comme ça dans un coin de la ville, nuitamment, dans des conditions particulièrement atroces, et ça suffisait pour que toutes les têtes rentrent dans les épaules, pour que la peur s'installe. Et ensuite, il avait surgissait soudain, à la sortie d'une boîte ou d'un endroit quelconque, des hommes avec des passe-montagnes, qui faisaient très très peur, qui entretenaient en permanence cette peur. Le pouvoir doit faire peur. Faire peur, c'est le moyen du pouvoir. Et la peur, ensuite, on lutte contre cette peur par la sécurité pour votre bien. Ce genre d'idée, à peu près, c'est ce que vous trouvez dans le bouquin de Claude-Marie Vadraud, qui sort aux éditions du Seuil, La Grande Surveillance. Claude-Marie Vadraud est un journaliste, et il fait un boulot formidable d'accumulation, véritablement, d'informations, et là on le retrouve à la station de métro Strasbourg-Saint-Denis. Ce qui est très intéressant, c'est que la station de métro Strasbourg-Saint-Denis est truffée de caméras, de vidéosurveillance, et que ça n'a en aucun cas fait baisser la délinquance, mais qu'en revanche, la station de métro Barbès n'est pas équipée de caméras de vidéosurveillance, et ça l'absence de caméras n'a absolument pas vu augmenter la délinquance. C'est-à-dire, en gros, voilà, ça sert à rien. Mais on va quand même, on vient de l'annoncer, ces jours derniers, multiplier par 3 ces équipements publics. On retrouve donc Claude-Marie Vadraud.
Alors, parmi la panoplie de technologies de traçabilité, de traçage, il y a la puce. Est-ce que des humains se sont vus inoculer une puce sous la peau au nom de la sécurité pour des raisons de surveillance, de traçabilité?
Oui, notamment, et ça n'est pas exhaustif, aux États-Unis, il concerne un certain nombre de patients dans les hôpitaux. Il concerne également, d'après ce que je sais, des SDF à qui on a mis cette puce pour mieux les identifier quand on les retrouve. Ça concerne également les prisonniers de Guantanamo. Là, ça aurait été fait à leur insu. Ça concerne également, sous le régime du volontariat, des employés de banque en Australie, et ça concerne enfin des clubs chics comme celui de Barcelone où, eh bien, pour rentrer, on présente son coude avec la puce incorporée sous la peau pour pouvoir rentrer. On est immédiatement identifié.
Et en France, est-ce que le projet de puce inoculée sous la peau d'être humain a été envisagé?
C'est tout à fait envisageable et envisagé. Notre ministre de l'Intérieur, qui est devenu depuis président, a envoyé une mission de hauts fonctionnaires aux États-Unis pour étudier le système. Il s'agissait d'abord de vérifier la fiabilité et la faisabilité technique de cette puce placée sous la peau, et ensuite, parce que c'est ça qui est important, de mesurer le degré d'acceptabilité d'une population de cette carte d'identité portée sur le corps, d'avoir son corps transformé en carte d'identité.
J'appelle ça le bocal. Pas de branchement téléphonique ou électrique, l'autarcie totale. Déconnecté du monde. Pas le moindre fil pour trimballer virus ou mouchard. Ça ne laisse que les transmetteurs. C'est un jeu d'enfant de nettoyer les fréquences.
Nettoyeur de fréquences pour transmetteurs ?
Le gouvernement s'est mis à coucher avec toute l'industrie des télécommunications et ils ont tout infecté. Ils pénètrent dans ton compte en banque, tes données informatiques, tes emails, ils mettent les téléphones sur écoute.
Ma femme me le serine depuis des années.
La moindre fréquence, le moindre fil. Plus on est branché technologique, plus c'est facile pour eux de tout mettre en fiche. Le meilleur des mondes, il paraît. Enfin, ça devrait l'être.
Je m'assieds devant mon ordinateur. Pas d'accès si je ne donne pas mon nom d'utilisateur et un mot de passe. Ma session s'ouvre, sont enregistrées toutes mes manipulations et utilisations Internet. Je vais sur un site d'achat de livres. Ça fait des mois que je n'ai pas consulté le site, mais à peine la page d'accueil s'ouvre, le serveur du site a reconnu mon adresse, tous mes achats et mes différentes cartes de crédit sont enregistrées. Je vais sur un journal en ligne, pareil. Le journal me reconnaît et sait exactement tous les articles que j'ai consultés et toutes les recherches que j'ai effectuées.
Si je tape une recherche sur un moteur de recherche, Google par exemple, est-ce que mes recherches sont enregistrées ?
Bien sûr, toutes les recherches que vous faites sur un moteur de recherche sont enregistrées et conservées pratiquement indéfiniment par les propriétaires des serveurs. Alors si on en croit les internautes, Internet, dont je me sers comme tout le monde, serait un lieu où il n'y a que de chics copains dans la convivialité la plus extraordinaire. Non, c'est d'abord un moyen de gagner de l'argent, ce qui n'est pas forcément scandaleux, mais c'est aussi un moyen de dresser des profils psychologiques, c'est un moyen de repérer des gens. Internet n'est pas neutre, Internet a de la mémoire.
Alors par exemple, qu'est-ce qui est gardé lorsque je fais une recherche avec mon ordinateur ? Quelles informations sont gardées par le moteur de recherche ?
Votre adresse d'ordinateur et le type et le temps de la recherche sont conservés par Google ou par un autre.
Et les mots-clés aussi, ce que j'ai tapé est lié à l'adresse de mon ordinateur.
Absolument, tous les mots-clés, et puis on établira un jour votre profil de par les recherches que vous pouvez établir. Plus les perversions de certains sites, pendant la campagne électorale, j'ai été amené à consulter le site de l'UMP, puisque je suivais la campagne du candidat Nicolas Sarkozy. Je voulais m'assurer qu'un débat avait bien eu lieu alors que je n'avais pas pu m'y rendre. Bon, j'ai consulté une petite vidéo et le lendemain, j'ai reçu un message internet du site en question me vantant l'UMP. Par conséquent, quelqu'un ou quelque chose avait noté mon adresse de façon à pouvoir m'envoyer un message. Ça a été dénoncé par la Commission nationale informatique et liberté. Il semble que ça ait cessé ensuite, mais la tentation existe toujours de repérer tous les gens qui consultent un site, tous les gens qui consultent un moteur de recherche.
Pourtant, Internet, c'est aussi un droit, en tout cas, à l'information, un accès à l'information avec les moteurs de recherche, avec les sites de la BBC ou les moyens de communication. Les Chinois, les Birmans pourraient utiliser, utilisent. On l'a beaucoup entendu dernièrement. C'était l'un des moyens de communication de la résistance birmane. Est-ce que ces fournisseurs collaborent ou au contraire sont des remparts aux dictateurs, aux dictatures? Est-ce...
Non, les grands fournisseurs comme Google, comme Yahoo et comme d'autres ont cédé aux autorités chinoises en restreignant l'accès à un certain nombre d'informations, de sites et de blogs. C'est pareil en Birmanie, c'est pareil en Biélorussie. Ces gens qui vendent du temps d'Internet pour pouvoir continuer à exister se soumettent aux obligations des dictatures ou des pouvoirs forts.
Je prends maintenant la voiture du travail. Un GPS rapporte à mon patron ou dénonce en temps réel tous mes faits et gestes.
Voilà, là on est parti, on peut être localisé.
Absolument, ouais, tout est fait. Même sans partir, on aurait pu être localisé. Le véhicule est tout le temps localisé.
Et vous avez une entreprise, votre slogan, c'est « Vous localiser, telle est notre mission ».
Absolument. Bon, l'idée, en fait, c'est de pouvoir permettre aussi bien aux sociétés et aux particuliers qui ont besoin de localisation, de leur fournir des systèmes, de façon à pouvoir savoir, effectivement, où sont leurs véhicules, mais aussi où sont leurs personnes, ou leur personnel, d'ailleurs.
Et alors, au niveau technique, technologique, comment ça fonctionne?
Bah, le principe, en fait, c'est que y a un boîtier. Si c'est pour la voiture, c'est un boîtier dédié à la voiture, qu'on dissimule. Si c'est pour la personne, c'est un boîtier qu'elle porte sur elle. Et en fait, la spécificité, c'est que ces boîtiers, ils ont à l'intérieur un module GPS qui leur permet de savoir où est le véhicule ou la personne, et un module GSM pour la transmission des données.
C'est-à-dire que je reçois les données sur mon téléphone portable ou par Internet ?
Ouais, alors par défaut, effectivement, ces données sont transmises sur Internet, sur ce qu'on appelle un serveur. Et en fait, il faut se connecter pour visualiser sur une carte les positions.
Voilà, voilà, vous avez compris, hein ? Je vous l'avais bien dit, je vous l'avais bien dit. Ou plutôt ma mère me l'avait bien dit. Dieu te regarde même quand t'es au cabinet. Là, ça y est, on y est, on y est, on y est. Vous êtes chef d'entreprise, terminez ces histoires de, vous voyez, vos livreurs qui font des petites pauses, des petits casse-croûtes dans les bouts. Terminez tout ça. Vous pouvez savoir où ils sont à tout moment. Alors, en attendant la puce, vous voyez, vous embauchez quelqu'un, clac, on lui met une puce. Mais en attendant, vous le mettez un boîtier dans son sac à main, dans son attaché-caisse, ou dans la voiture, et vous savez où il est. Je caricature, bien évidemment. Et Thierry Marc Beaurevoix, le patron de Espace Mobilité, nous donne des précisions.
Alors vous me l'avez dit, le boîtier est dissimulé, parce que là, on est en voiture. En tout cas, moi, je vois rien. Il n'y a rien qui m'indique que la voiture peut être localisable.
Oui. Bah, d'une part, parce qu'effectivement, ce boîtier, au-delà de la localisation, peut avoir une utilité, ne serait-ce que par rapport au vol. Donc concrètement, l'idée, c'est de, si voleur il y a, qu'il ne sache pas où est le boîtier. C'est aussi simple que ça.
Alors moi, je suis employé, mais là, pour le plaisir, je vais prendre le rôle d'un patron. Si je veux donc localiser un véhicule, un collaborateur, ma femme, ma grand-mère, son chien et sa laisse, c'est possible.
Ouais, c'est possible, sauf que pour le coup, si on prend spécifiquement une entreprise, il y a un process, il y a un certain nombre d'obligations auxquelles il faut se conformer. Je pense notamment à la CNIL, hein, où en clair, l'employeur a obligation de déclarer ce dispositif à la CNIL et il a obligation de prévenir le salarié. Donc ça peut pas se faire, entre guillemets, à l'insu du salarié, ça c'est pas possible. Le risque, potentiellement, c'est par exemple une action prud'homme, voire plus. Hein, on est limite pénal. Moi, je connais pas, j'ai pas d'exemple de pénal, mais il me semble que ça peut rentrer dans le cadre du pénal. Ouais. Maintenant, pour le coup, un particulier qui veut faire ça, oui, très honnêtement, c'est possible, bien entendu. Je veux dire que faut pas être naïf. Hein, il suffit qu'il donne des informations erronées sur, par exemple, que c'est pas son véhicule. Oui, c'est possible. Je veux dire que c'est quand même des dispositifs qui sont utilisés aussi par les forces de l'ordre. Donc bon.
Est-ce qu'il y a une limite de couverture de zone ?
La limite, en fait, elle est tout simplement qu'il faut qu'il y ait un réseau GSM. On peut considérer qu'en Europe, il y a une couverture qui est plutôt pas mal.
Donc si j'équipe mon véhicule, eh ben, je peux le tracer à travers toute la France, toute l'Europe ?
Oui, absolument.
Et si, à l'inverse, moi, je veux délimiter une zone au-delà de laquelle je ne veux pas que le véhicule puisse aller, c'est possible ?
Bah, en fait, oui, en principe, en théorie, parce que on peut définir ce qu'on appelle des zones de sécurité ou geofencing sur tous les types de boîtiers, que ce soit directement au niveau du boîtier ou des plateformes, justement, des serveurs. Mais la législation française interdit ce qu'on appelle les coupures de moteur. Donc, bah, par exemple, très concrètement, nous, on le fait pas, on ne propose pas.
Ah, mais c'est possible. On pourrait équiper.
C'est tout à fait possible, oui.
Donc, je délimite une zone, je vois que le véhicule la dépasse, je peux arrêter la voiture.
Exact.
À distance.
Mm-hmm. Absolument, oui. Une coupure moteur, oui, absolument.
Et vous dites théoriquement, donc, ça peut exister. Ça, c'est fait.
Oui, non, mais très clairement, avec Internet, vous pouvez trouver des boîtiers Made in China, Made in USA, qui proposent ça, absolument. Ce qu'on fait pas mal aussi, nous, c'est des balises pour la protection du travailleur isolé. C'est-à-dire qu'en fait, on a des balises qui sont spécialement dédiées à ça. C'est-à-dire qu'en clair, la personne est seule, elle travaille de nuit. Si jamais elle a un moment d'angoisse, de panique, elle a la possibilité d'appuyer sur un bouton qui va déclencher des appels vocaux et signaler sa position. Et dans le même temps, si elle a un malaise, si elle tombe, si elle ne peut plus bouger, on a le dispositif qui se met aussi en route sur ce qu'on appelle la position de l'homme mort et qui permet aussi la localisation. Et c'est donc quelque chose là qu'on dédie vraiment pour les travailleurs isolés. Donc là, on est quand même vraiment dans, pour moi, quelque chose, un vrai service qui est plus là du tout quelque chose qui est entre guillemets du flicage. C'est vraiment de la sécurité et de la sécurité active.
Ben, vous l'avez dit, on tourne autour de la question. Enfin, il a un aspect évidemment très positif, intéressant. Sans langue de bois, quel est l'esprit des clients? Pourquoi on s'adresse à vous?
Si on reprend l'exemple d'une société, c'est encore une fois parce que ils ont des doutes sur l'utilisation des véhicules, des matériaux, etc. Ils veulent réduire ce doute. La plupart du temps, le simple fait de déclarer aux personnes que les véhicules sont équipés, ça réduit, mais automatiquement, il y a une automaticité dans la réduction.
Souriez, vous êtes filmé. Michel Alliomarie annonce que le nombre de caméras de vidéosurveillance installées en France va tripler d'ici la fin de l'année 2009.
Oui, bonjour, Patrick Haas, directeur d'En Toute Sécurité.
Patrick Haas, vous êtes le directeur de En Toute Sécurité, qui est une revue, un magazine et un atlas. Enfin, vous êtes expert de l'information économique.
Alors, en France, il y a à peu près 6 000 à 7 000 sociétés de sécurité privées. D'ailleurs, personne ne sait exactement combien il y en a, parce que en gros, il en meurt à peu près un millier par an, et il en naît un millier par an aussi. Donc, c'est un marché très fluctuant, où il y a beaucoup trop d'acteurs. Les experts estiment qu'il en faudrait 2-3 000 maximum en France pour qu'il y ait un marché, disons, assez serein ou sain.
Est-ce que l'on sait ce que représente, qu'est-ce que représente au niveau industriel le marché de la surveillance et de la sécurité aujourd'hui en France ou dans le monde?
La sécurité est un marché assez hétéroclite, où on trouve des prestations aussi bien de gardiennage que de transport de fonds, que de sécurité électronique, que de sécurité incendie. Donc si on prend la totalité de ce marché, en France, c'est 18 milliards d'euros. Donc c'est un chiffre très conséquent qui est en gros le quart du marché de l'automobile en France, par exemple.
Alors là, on est dans les chiffres et concrètement, pratiquement dans l'efficacité, dans le travail en lui-même de ces entreprises. Qu'est-ce que ça signifie, cette concurrence acharnée?
Alors, ça veut dire que les sociétés de sécurité cherchent à réduire leurs coûts au maximum, qu'elles n'y arrivent pas toujours parce qu'il y a des contraintes administratives. Par exemple, on ne paye pas un agent de sécurité plus bas que le SMIC, hein, enfin, on ne devrait pas, en tout cas légalement. Et justement, la conséquence, c'est que de nombreuses sociétés de sécurité se livre à des pratiques illicites, c'est-à-dire du paiement au noir, non-déclaration d'heures, etc., etc.
Parce qu'il y en a de plus en plus, mais les chiffres de la sécurité, les chiffres accordés ou le chiffre d'affaires, lui, est en hausse. On a un indice, on peut mesurer ça?
Par exemple, en 1996, le marché était de 10 milliards. Et aujourd'hui, en 2006, il est de 18 milliards. Donc, vous voyez, presque un doublement.
C'est presque du 100%.
Ouais.
Quel est le facteur déterminant qui pousse, qui encourage toujours à plus d'équipements? Est-ce que c'est le démarchage des entreprises? Quel est le facteur déterminant dans cet emballé de quasiment 100% de chiffre d'affaires en 10 ans?
Alors non, ce n'est pas l'offre qui est très dynamique, c'est la demande. C'est-à-dire que les autorités, le monde politique, l'État, un discours de protection et ça se traduit par des investissements importants.
Alors justement, quelle garantie, ou plutôt comment sont décidés les contrats, comment sont décidés les achats d'équipements et quel type de garantie démocratique il y a sur justement l'achat ou la sous-traitance de cette surveillance, cette sécurité?
Alors malheureusement, il n'y a pas beaucoup de garanties. C'est-à-dire qu'on achète, enfin l'État malheureusement achète de la sécurité privée comme il achète du papier ou des prestations de restauration collective. Alors que la sécurité, c'est quand même un domaine qui n'a rien à voir, qui est stratégique, qui est sensible et pour lequel il faut avoir effectivement des garanties. Et à mon sens, l'État est un mauvais client en matière de sécurité, puisqu'il fait très souvent appel, au moins 10 ans, et non pas au mieux-disant. Et donc, ils se tournent vers les sociétés les moins chères. Et les sociétés les moins chères, généralement, ne présentent pas toujours les garanties suffisantes en matière de moralité, de qualité de service. Alors, il y a des exemples, oui, de sociétés qui travaillaient pour l'État et qui ont fait faillite parce que les prix étaient beaucoup trop bas. Des faillites qui étaient quelquefois plus ou moins frauduleuses, d'ailleurs, parce que l'État fait quelquefois appel à des sociétés qui sont notoirement en marge de la légalité.
Est-ce qu'il y a une surenchère tout le temps, quasi obligatoire à l'équipement, aujourd'hui en surveillance et en sécurité ?
Alors, oui, les motivations d'équipement, d'achat, sont très souvent irrationnelles pour la sécurité. C'est par exemple au lendemain d'un attentat. C'est par exemple aussi le lendemain d'un cambriolage pour un particulier. Donc les motivations sont de cet ordre-là et il semble effectivement obligatoire que un client s'équipe des derniers modèles, des derniers équipements avec les derniers cris de la technologie. La demande s'est surtout portée sur la sécurité électronique ces 10 dernières années. C'est vraiment l'explosion du marché de la vidéosurveillance, de la télésurveillance, de la biométrie dans le contrôle d'accès, etc.
Merci à tous, merci. C'était un reportage de Sylvain Savolainen, à lire de Claude-Marie Vadreau, La Grande Surveillance, édition du Seuil, et aussi un numéro spécial du magazine L'Humanité Dimanche, du mois de juillet, qui nous a servi un peu de base à ces reportages. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, mais Monsieur Vadreau a encore quelque chose à nous dire.
Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu une schizophrénie ambiante où d'un côté il y a un discours d'encouragement du risque, le risque pour conquérir de nouveaux marchés, pour se frotter à l'inconnu, c'est ce que prônent les entrepreneurs ou certains politiciens, et parallèlement ces mêmes entrepreneurs ou ces mêmes politiciens parlent d'un risque zéro. Est-ce qu'il n'y a pas une attitude un petit peu schizophrène là-dedans, entre risque et sécurité maximum ?
L'État ne veut plus prendre le moindre risque politique avec ses citoyens. Donc, il réduit la liberté. La liberté d'entreprendre, c'est tout à fait autre chose. La liberté de vivre comme on l'entend, sans gêner les autres, par contre, ça gêne l'État politique, quel qu'il soit. On ne peut plus avoir de liberté dans ce système. Elle se restreint de jour en jour. Qu'est-ce que ça peut bien foutre à la RATP de connaître mes déplacements dans Paris ? Alors, on utilise le prétexte de l'organisation sociale des transports, mais c'est faux. Comme on faisait avant, on pouvait déterminer quels étaient les voyageurs en les comptant au portillon. Eh bien, maintenant, on aurait besoin de mes traces par le pass Navigo. Non, ça n'est pas admissible. Parce que derrière les nécessités, derrière la soi-disant défense des honnêtes gens, de ceux qui n'ont rien à se reprocher, se profile un contrôle total de la population.
Aujourd'hui, dans la rue, demain on continue. Aujourd'hui, dans la rue, demain on continue. Aujourd'hui, dans la rue.
Je compte me rendre maintenant à une manifestation. Mais j'hésite, la police pourrait ne pas apprécier ma participation à cette manifestation et pourrait exiger de prélever mon ADN pour alimenter un fichier de suspect.
Eh ben, on n'a pas le cul sorti des ronces, les amis. À la technique aujourd'hui, Antoine Viossa et Cédric Lalanne, c'est Yann Chouquet et Coy Nguyen qui ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry, et c'est Christophe Imbert qui attend vos messages au répondeur de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Et puis n'oubliez pas, en ce 17 octobre, il y aura tout à l'heure sur le pont Saint-Michel à Paris une commémoration du massacre du 17 octobre 1961. Ça se tient vers 18h30 sur ce pont Saint-Michel.